Soyez bénis de la part de Dieu, et comme Dieu bénit, recevez cette bénédiction. Je vais demander encore l'aide de Dieu pour le partage, comme il vient d'être demandé, c'est pas que je doute de sa prière, mais j'ai à cœur aussi de partager ce moment au travers de la parole, donc c'est tellement important qu'il y ait son aide. Ô Dieu, tu es celui qui nous a prêté jusqu'à cet instant le souffle de la vie. Et par ta grâce, tu nous as attirés à toi, tu nous as ouvert l'intelligence, le cœur pour comprendre ce que tu nous as donné de plus cher pour être réconcilié avec toi, ton Fils bien-aimé. Nous avons besoin, comme tu le laisses dans ta parole, du Saint-Esprit que tu as envoyé par Jésus. Merci de conduire tous ces moments et de disposer nos cœurs. À toi la gloire, parce que tu es l'auteur et l'acteur de ces œuvres. Amen. Avant de partager la parole de Dieu, comme je fais partie du comité de l'action évangélique de Pentecôte, et partout cela m'est donné l'occasion à chaque fois que je porte la parole, Donc, donner quelques informations. Je vois que vous avez la revue à l'entrée de ce lieu de culte. Si quelqu'un ne l'avait pas encore, pensez à la prendre et à prier pour tous ces sujets qui sont présentés sur cette revue. C'est le pasteur Sébastien Quédreux qui maintenant a la responsabilité de cette revue. Merci de prier pour nos bien-aimés qui connaissent la persécution, qui n'ont pas nos privilèges. Et puis, dans le cadre de l'action évangélique de Pentecôte, il y a aussi le domaine des parrainages. Maintenant, c'est le pasteur Alain Donizou qui en est le président, Michel Pelletier, que vous connaissez bien, qui en est le trésorier. Et si vous avez à cœur de parrainer un enfant, faites-le. J'ai à votre disposition quelques fiches d'inscription. Que ce soit dans le cadre de l'action évangélique de Pentecôte ou que ce soit par l'action missionnaire, si vous pouvez parrainer un enfant, faites-le. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, que ce soit au niveau de l'Inde, le Myanmar, eh bien, faites-le. Merci de votre attention. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu dans un texte que nous connaissons par cœur. Jean 3,16, vous pouvez le réciter sans que j'aie besoin de le lire, mais nous allons le lire parce qu'il est toujours très important d'ouvrir la parole de Dieu et de la lire. Donc, j'ai intitulé ce partage que je vais faire au travers de ces deux cultes. La première partie que je vais partager avec vous, vous donner un survol de ce qui sera partagé au deuxième culte, et vous apporter, au travers de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, cette conclusion pour les uns et les autres, que vous repartiez avec ces encouragements de la part de Dieu. J'ai intitulé ce partage « L'amour de Dieu en action ». Donc Jean 3, nous lirons au verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut... de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Nous arrêtons notre lecture ici. L'amour de Dieu en action. L'amour que Dieu manifeste en action, c'est un amour qui est juste. Nous vivons en tant qu'humains, quand on utilise ce mot amour, bien souvent des déséquilibres, des injustices. Mais l'amour que Dieu manifeste en nous donnant la preuve par le don de son Fils Jésus est un amour qui est juste. C'est un amour qui est saint. Et c'est important de le souligner parce que Dieu est ce Dieu trois fois saint. Et bénéficier de cet amour de Dieu au travers du don de son Fils, c'est participer à cet amour trois fois saint. C'est aussi un amour qui est équilibré. Les humains que nous sommes vivons tellement de façon extrême. Mais Dieu, dans son amour, est un amour très équilibré. Et il veut, dans chacune de nos vies, nous amener à l'expérimenter et à le vivre de progrès en progrès dans l'équilibre. Et l'action de Dieu, de son amour, comme nous venons de le lire, c'est le don de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Ce don, c'est donc Jésus. Voilà, au travers de la personne de Jésus, le don dans l'extrémité de l'amour juste, saint, équilibré, de la part de Dieu qu'il veut partager, qu'il veut nous amener à développer et qu'il veut ainsi nous amener dans l'équilibre pour que notre relation, notre communion, notre vie avec ce Dieu trois fois saint puisse être vécue dans l'équilibre. Et cela, comme nous l'avons lu, afin que quiconque, personne n'est exclu, et ceux qui s'excluent le font consciemment ou involontairement, mais ils le font quand même. Et remercions Dieu de ce que, dans sa bonté, sa miséricorde, il nous a donné son intelligence, sa sagesse pour ne pas louper notre occasion. Et nous faisons partie de ce quiconque qui croit, qui a été amené à la foi, qui a été amené à saisir notre occasion. Et je voudrais ce matin, au travers de l'amour de Dieu en action par le don de Jésus, son Fils bien-aimé, faire d'autres lectures pour vous amener à nous arrêter sur ce cadeau, ce don qu'est Jésus. Nous allons lire dans la lettre aux Hébreux et je vous encourage dans les jours qui viennent à relire très attentivement cette lettre aux Hébreux, car elle est très importante, où elle met l'accent sur l'œuvre de Jésus en particulier. Dans Hébreux chapitre 1er et verset 1er, il nous est dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » On peut lire aussi dans ce chapitre 3 de la lettre aux Hébreux, verset 1er, « C'est pourquoi, frères saints, qui avait part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre ou l'envoyé et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. » Et puis une dernière lecture d'un verset que vous connaissez très bien, dans Hébreux chapitre 12, Nous lisons à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et là il fait référence au chapitre 11 concernant de tous ces hommes et ces femmes qui ont été des hommes et des femmes de foi à l'égard de Dieu, des promesses, et là il ramène chacun d'entre nous sur l'essentiel du don de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Partagez cette parole sur l'amour de Dieu en action en considérant. Dans ce chapitre 3, et verset 1er, et dans ce chapitre 12, il nous est rappelé de considérer Jésus. Jésus qui est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus, son Fils bien-aimé. Nous allons nous arrêter sur plusieurs considérations. Nous allons nous arrêter sur cette considération de la personne de Jésus, réfléchir ou permettre au Saint-Esprit de nous aider à bien réfléchir. Souvent, je fais cette prière au Seigneur, aide-moi à bien comprendre et aide-moi à bien interpréter ta parole. Parce que c'est vrai que des fois, on l'interprète, on va un peu dans tous les sens. Et il faut que le Seigneur nous aide à bien comprendre, comme lui veut que nous la comprenions, sa parole, pour bien la vivre, comme lui veut que nous la vivions. Considérer, réfléchir, nous attarder sur ce don qui est le don d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous allons voir la considération du don de Dieu, de son amour, au travers des souffrances de Jésus, de son sacrifice. Nous allons considérer aussi Jésus qui est supérieur aux anges, Jésus qui est aussi supérieur à Moïse, Jésus qui est supérieur aussi à Aaron. Et puis dans le deuxième culte, mais je ferai un aperçu rapide pour que vous n'ayez pas à louper ce qui est quand même important, considérez Jésus qui est supérieur par sa résurrection, par sa position auprès de notre Père, notre Dieu, et sa gloire telle qu'elle est rappelée, entre autres, comme Jean a pu la voir dans la lettre de l'Apocalypse. Et puis considérer Jésus aussi dans son retour, parce que cela fait partie de notre actualité qui est en train de le préparer. Et puis considérer aussi Jésus, comme nous venons de le lire, au travers de l'envoi du Saint-Esprit pour que nous soyons ses témoins. Voilà donc un peu le survol rapide de ce que je voudrais partager. Mais d'abord, considérer l'amour de Dieu au travers du don de son Fils dans les souffrances que Jésus a dû supporter. Permettons au Saint-Esprit de nous aider de comprendre. Jésus égal à Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Accepter que son Fils puisse être dépouillé de sa gloire. Accepter que son Fils bien-aimé puisse revêtir l'enveloppe, l'identité de l'humain que nous sommes. Accepter que Jésus puisse naître comme un simple être humain. Et surtout, cet amour de Dieu et cet amour de Christ pour obéir à son Père. D'accepter de marcher parmi les hommes et de pouvoir répondre à leurs souffrances, à leurs besoins, mais surtout d'arriver à ce but pour lequel Dieu l'a envoyé, pour lequel Jésus a dit « Me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté ». La souffrance de Jésus et de ce Père, de ce Dieu trois fois saint, de ce Dieu qui est juste dans son amour, de ce Dieu qui est saint, de ce Dieu qui est équilibré, d'accepter de voir son Fils livré et puis condamné, crucifié, avec tout ce que cela comporte de souffrance physique, mais surtout spirituelle, morale, que son Fils a dû subir. Considérons Jésus, considérons cet amour de Dieu. Alors que Dieu va détourner les regards et que Jésus, son Fils, va lui adresser ses prières, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les souffrances de ce Fils qui accepte de porter la croix. Et comme nous l'avons lu dans ce chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, où il a accepté de porter nos péchés, il a accepté de payer le prix. Cet amour de Dieu, considérons-le, réfléchissons-y, attardons-nous-y. Permettons au Saint-Esprit de marquer davantage notre vie. Nous avons été rachetés à ce prix-là, au prix de l'amour de ce Dieu qui accepte de laisser son propre Fils être humilié, abaissé, et de ce Fils qui, par amour pour son Père, mais aussi par amour pour quiconque veut le croire, a versé son sang, sang du Fils de Dieu, sang de l'humain qu'il était, pour pouvoir apporter la réponse, la seule et unique réponse pour le salut de l'âme, pour la délivrance de nos péchés, pour la délivrance de tout ce qui peut être comme puissance pour avilir l'être humain et donner à l'être humain par cet amour et ses souffrances sur le bois de la croix le moyen à quiconque de pouvoir connaître la paix de Dieu, l'amour de Dieu et aussi cette vie nouvelle en la personne de Jésus. Considérons et attardons-nous sur le don d'amour de Dieu, sur la personne de Jésus qui est ce don, où il nous est dit dans ce chapitre 1er, verset 4 de la lettre aux Hébreux que nous avons lu, que Jésus est supérieur aux anges, ayant hérité un nom supérieur au leur. Jésus n'est pas un être créé. Mais il a été engendré. Jésus n'est pas un être céleste comme les anges. Il est fils de Dieu. C'est vrai que les anges, au travers de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, nous les voyons envoyés de la part de Dieu et de la part du Seigneur Jésus pour agir en notre faveur, pour intervenir dans nos besoins. Et bien souvent, nous sommes au bénéfice de ces actions angéliques de la part de notre Dieu. Mais Jésus est supérieur. Jésus est supérieur parce qu'il est le seul sauveur. Ce n'est pas un ange qui est venu pour nous sauver. Ce n'est pas un ange qui a versé son sang. Ce n'est pas un ange qui a dit à Dieu, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, quoi qu'il fasse la volonté de Dieu. Mais Jésus est supérieur aux anges. Et il est là pour nous donner de manifester l'œuvre de son Père en faveur de chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions adresser nos prières à Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, pour lui permettre d'être en communion. Bien des êtres humains sont en mesure aujourd'hui, malheureusement, dans leur ignorance, d'adresser des prières à des saints ou à des anges. Mais quand l'ange s'est approché de Jean et qu'il est tombé à ses genoux, ce n'est pas l'ange qui devait adorer, il lui a dit « adore Dieu ». Et nous devons adorer Dieu qui est l'auteur d'un amour en action au travers du don de son Fils. Je ne m'attarderai pas sur ce sujet, mais m'attarder maintenant sur la considération, sur la réflexion, sur nous attarder, sur les regards qui sont apportés sur le don de son amour, c'est-à-dire sur Jésus, où il nous est dit dans Hébreux chapitre 3, verset 6, que Jésus est supérieur à Moïse. Et c'est important qu'il y ait cette parole qui le souligne. Moïse fut un grand homme de Dieu, grand parce que Dieu l'a amené à pouvoir être pétri, conduit et à faire sa volonté. Moïse a été cet homme qui a permis à ce peuple de sortir de l'esclavage. Moïse a été l'homme qui a été d'une grande patience, conduit le peuple dans le désert et dans sa relation, lui, Moïse, avec ce Dieu trois fois saint, a pu recevoir eh bien, les 10 commandements, les ordonnances qui étaient nécessaires pour l'équilibre, la vie, conduire l'être humain, et puis recevoir aussi les instructions pour que Dieu puisse marcher avec le peuple au travers de cette tente, ce tabernacle, et puis au travers de ce coffre où il y avait la loi qui était dedans, etc. Moïse a été un homme utile à Dieu, mais Jésus est supérieur. Pourquoi ? Parce que Moïse a reçu la loi et y a obéi avec l'aide de Dieu. Mais nous savons que la loi par elle-même, qui est bonne, qui est parfaite, ne peut pas être pratiquée par l'humain que nous sommes. Israël en est un témoin. Israël, bien qu'il ait essayé de faire la volonté de Dieu, nous donne cette constatation que la loi est bonne, mais l'humain qui est l'israélite et que nous sommes, ne peut pas par lui-même accomplir la loi de Dieu. Il fallait que quelqu'un vienne qui soit supérieur. Et l'amour de Dieu, qui dans son temps voulu, nous a envoyé son don d'amour, Jésus, et qui est supérieur. Pourquoi ? Parce que par son sacrifice sur le bois de la croix, par son œuvre parfaite accomplie, il a accompli la loi de Dieu et nous a amenés, vous et moi, non plus à faire des efforts pour faire la volonté de Dieu, quoique Dieu attende qu'il y ait un acte volontaire de notre part. Mais ce n'est pas par nos forces, ce ne sont pas par nos capacités que nous pouvons être agréables à Dieu. Vous et moi, nous pouvons faire la volonté de Dieu parce que Jésus a accompli la loi de Dieu. Et c'est Jésus qui accomplit la loi de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons dans notre vie une double nature, cette nature charnelle qui lutte contre la volonté de Dieu et cette nature spirituelle qui veut faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons la vivre parce que nous permettons à Jésus, parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit, de mettre en application cette victoire qu'il a accomplie à la croix. Jésus est supérieur parce qu'il a fait l'œuvre parfaite pour que vous et moi, nous n'ayons pas, par des efforts, par des sacrifices, à faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, mais à laisser faire son œuvre dans notre propre vie. Mon frère, ma sœur, si vous cherchez à lutter par vous-même pour faire la volonté de Dieu, vous n'y arriverez jamais. Mais si vous laissez Jésus vivre en vous, et agir par sa parole pour faire mourir votre nature naturelle, eh bien, c'est lui, Jésus, qui a accompli et qui est pour nous. C'est pour ça que la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, quand il adresse ses paroles dans sa première lettre aux Corinthiens, il dit « Car Jésus a été fait pour nous sagesse ». Si nous pouvons être sages de la sagesse de Dieu, c'est parce que Jésus est notre sauveur. Il a été fait justice, et c'est parce qu'il est juste que nous pouvons vivre de sa justice. Il a été fait sanctification pour nous, c'est lui qui l'a accompli. Et nous pouvons être saints parce que nous laissons Jésus vivre par sa parole en nous. Et nous pouvons être rachetés parce qu'il nous a rachetés par son sacrifice. Oui, considérons Jésus, ce don d'amour. Dieu, dans son amour, dans l'action, nous donne celui qui a accompli ce que nous ne pouvons pas accomplir et qu'il nous donne de le vivre au travers de nos humbles vies. Et puis, au chapitre 8 et 9 de la lettre aux Hébreux, et je vous encourage à le relire très attentivement et à permettre de considérer Jésus, il nous est dit que Jésus est supérieur à Aaron. Aaron qui était le frère de Moïse et qui fut choisi par Dieu pour être souverain sacrificateur. Celui qui était choisi par Dieu pour offrir les sacrifices pour permettre au peuple qui a porté son animal, en posant sa main sur la tête de l'animal et d'égorger l'animal pour que le sang soit répandu, le sacrificateur avait cette responsabilité d'aller répandre le sang devant Dieu pour que Dieu soit favorable à celui qui venait demander l'expiation, le pardon de ses péchés. Jésus est supérieur à Aaron. Aaron a passé son temps, ses fils lui ont succédé, et puis la tribu de Lévi a été choisie pour pouvoir, jusqu'à la venue de Jésus, à ce qu'il y ait des sacrificateurs qui offrent le sang d'animaux pour le pardon du peuple. Mais cela n'était qu'un temps jusqu'à la venue du don parfait de Dieu en la personne de Jésus, notre Sauveur. Considérons Jésus, ce grand souverain sacrificateur. Jésus a offert qu'un seul sacrifice. Et c'est pour ça que la lettre aux Hébreux, au chapitre 8 et au chapitre 9, mettent l'accent sur cette importance. Il fallait que chaque année, des sacrifices soient renouvelés. Tandis que maintenant, Christ est mort une seule fois, offrant sa vie pour permettre par son sang d'offrir à chaque être humain de s'approcher de Dieu avec l'œuvre de Jésus accomplie et de croire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous réconcilie avec Dieu une bonne fois pour toutes. Où il n'est plus nécessaire maintenant de faire des sacrifices sans arrêt, mais simplement de nous rappeler au travers de ces deux éléments du pain et du vin, ce sacrifice parfait accompli une fois pour toutes pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus est supérieur à Aaron parce qu'il est ce souverain sacrificateur qui ne peut pas transmettre sa sacrificature, qui ne peut pas transmettre à quelqu'un d'autre parce qu'il est éternel. Parce qu'il est toujours le même. Et c'est pour cela que nous pouvons nous approcher, c'est ce que nous rappelle le chapitre 12, où il nous est dit d'avoir les regards sur Jésus, parce qu'il nous amène à pouvoir nous présenter chaque jour, 24 heures sur 24, auprès de notre Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu trois fois saint, ce Dieu juste, ce Dieu équilibré, si ce n'est que sur la position de la foi en la personne de Jésus. Ni vous ni moi ne pouvons prétendre nous approcher de Dieu, si ce n'est qu'en la personne de Jésus. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné le seul moyen pour pouvoir être sauvés. Alors maintenant, je vais anticiper un petit peu pour que vous ayez le bénéfice de ce que je développerai au deuxième culte, pour que vous puissiez avoir un aperçu global de ce que nous sommes appelés à considérer en la personne de Jésus. Jésus est supérieur par sa résurrection. Christ est vivant. Le tombeau est vide. Il est supérieur parce qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts. Celui qui ne connaîtra plus et qui ne sera jamais plus à connaître la mort. Jésus est supérieur par sa résurrection parce qu'il occupe maintenant une position en notre faveur auprès du Père. Dans l'instant où nous partageons ce moment, il est dans la gloire. Il règne. Ce Dieu d'amour a son Fils bien-aimé avec lui. Et c'est lui qui est notre intercesseur auprès du Père. Et il est avec nous, au milieu de nous, dans nos vies, parce que de la part de ce Dieu d'amour, Jésus ressuscité nous a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir être en communion avec notre Dieu, ce Dieu trois fois saint. La gloire de Jésus, vous la retrouverez, et je vous encourage à le relire chez vous, dans Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 18, lorsque Jean le découvre. Jean qui, ce disciple, avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus lors du repas de l'institution de la scène. Jean qui avait cheminé avec Jésus pendant son pèlerinage sur la terre. Jean le découvre tel qu'il est, dans sa gloire. Et vous et moi, un jour, nous le verrons dans sa gloire. Ce n'est plus le petit Jésus de la crèche. Ce n'est pas le Seigneur Jésus galvaudé de notre monde, mais il est ce Seigneur, ce don de Dieu. Dieu prouve son amour en nous le donnant. Celui en qui nous croyons, c'est le ressuscité, c'est le vivant, c'est celui qui règne à la droite de Dieu et qui intercède en notre faveur. Autre considération aussi dans le retour de Jésus, Jésus est supérieur et nous avons besoin de le considérer dans ces événements qui sont à venir et qui s'accélèrent actuellement. Tout est en train de se mettre en place très rapidement pour le retour de Jésus. Et nous voyons bien que notre monde ne peut pas continuer comme il est en train de vivre actuellement, tant sur le domaine de la pollution que sur le domaine pollution aussi morale, tant au niveau de tout ce qui est dans nos réalités. Oui, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et au travers de la résurrection, premièrement de ceux qui, depuis la croix et depuis ceux qui ont été rachetés de l'Ancienne Alliance, jusqu'à ce moment où il va revenir, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Et c'est le fruit de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas pour oublier tous ses bien-aimés qui, au travers de tous ces siècles, ont été de ces hommes, de ces femmes simples, mais qui ont cru en l'amour de ce Dieu qui nous a donné son Fils bien-aimé. Et puis, Jésus, nous avons besoin de le considérer parce que dans son retour, il va juger les nations. C'est ce qui nous est rappelé au travers des paroles prophétiques. Le retour de Jésus en gloire aussi dans sa deuxième phase, première phase où il enlève l'Église, et deuxième aspect où il revient en gloire, où tout œil le verra, où il posera ses pieds sur la montagne de Sion, où il y a un espace de 2 fois 3 ans et demi entre la résurrection, l'enlèvement et le retour de Jésus en gloire, l'anéantissement aussi de l'Antichrist, anti contre le Christ. Et puis, considérons aussi Jésus au travers de ce que, depuis plus de 2000 ans maintenant, il ne nous a pas laissés orphelins, qu'il ne siège pas à la droite de Dieu sans pouvoir être au contact direct avec chacun d'entre nous. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité. Dieu, en la personne du don de son amour, c'est Jésus de la part de son Père qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas seuls, pour que nous puissions être ses témoins et puis pour que nous puissions être conduits dans toute la vérité. Quelques moments d'attention sur cette réalité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dieu est un Dieu saint dans son amour. Dieu est un Dieu juste dans son amour. Dieu est un Dieu équilibré dans son amour. Et Jésus, qui est le don de l'amour de Dieu, en nous envoyant la personne du Saint-Esprit, ne nous a pas envoyé un esprit déséquilibré. Mais il nous a envoyé la personne du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est pour ça que, comme je disais dans l'introduction, je fais souvent cette prière, « Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à interpréter correctement ce qu'est ta parole, à ne pas la déformer. Permettons, dans notre prière, d'adresser à Dieu cette prière. Tu nous as envoyé la personne du Saint-Esprit pour me conduire dans toute la vérité. Aide-moi, Seigneur, dans cette conduite, dans l'équilibre de ton esprit pour vivre ta volonté. » Alors, en conclusion, pour nous, dans ce premier culte, voilà l'amour de Dieu en action, en considérant Jésus, en considérant Jésus dans ses souffrances, son sacrifice, supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur à Aaron, supérieur par sa résurrection, par sa position auprès du Père, mais aussi où nous attendons son retour, par l'envoi du Saint-Esprit. Vous et moi, nous avons besoin chaque jour, dans notre réalité, de pouvoir être aidés. Et c'est ce que nous rappelle le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et nous en avons au travers de nos frères et sœurs qui marchent dans l'équilibre. Regardons à Jésus. Permettons chaque jour de regarder vers lui dans toutes nos réalités pour vivre la volonté de Dieu. « Seigneur, je ne peux faire la volonté de Dieu, mon Père céleste, que dans la mesure où je suis au bénéfice de ton œuvre à toi, ayant les regards fixés sur Jésus. » Dans notre vécu de chaque jour, à travers de nos réalités, si nous regardons à nous, selon ce que nous ressentons, selon nos états d'âme, c'est vrai qu'il y a de l'instabilité, des découragements, etc. Mais si vous et moi, nous avons pu parvenir jusqu'ici, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, le Seigneur nous a rattrapés en nous disant « Mais regarde à moi, fixe ton attention sur moi, tu ne seras pas déçu, tu seras toujours encouragé. » Donc pour nos réalités de chaque jour, fixons notre attention, considérons le don de l'amour de Dieu qu'est Jésus. Et puis pour nos besoins, parce que nous avons nos besoins, ces deux textes que vous connaissez par cœur, mais que je voudrais vous laisser, dans Hébreux 4, 16, vous connaissez ces paroles, verset 14, il dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors, si nous détachons ce verset 16 des versets qui précèdent, c'est vrai qu'on peut donner beaucoup de choses, mais n'oublions pas que nous avons ce grand souverain sacrificateur. Et puisqu'il est auprès de Dieu, approchons-nous. Dieu, ce Dieu d'amour, n'est pas le Père fouettard, mais il est ce Dieu qui me donne par le don de son amour un accès à un trône de grâce. Donc dans toutes nos réalités, jour après jour, regardons à Dieu dans le nom de Jésus, adressons-lui à Dieu notre prière dans le nom de Jésus, et puis approchons-nous avec assurance de ce trône de la grâce. Et puis deux dernières paroles que j'aimerais lire, que vous connaissez aussi par cœur, dans Philippiens chapitre 4 et verset 6. Ne vous inquiétez de rien, donc ça ce sont nos réalités au travers de nos souffrances, de nos soucis, de nos combats. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc apportons-lui ce qui peut être sur votre cœur, peser sur votre vie ce matin, pour lui permettre de pouvoir repartir rassuré, encouragé et permettre à réaliser votre immense privilège, notre immense privilège, que Dieu nous aime. Ce qui compte, c'est vous et moi. Nous le croyons, nous croyons en Jésus. Et nous laissons le Saint-Esprit qui nous a envoyés nous conduire dans toute la vérité. Mon frère, ma sœur, Dieu est avec toi. Laisse-le faire. Il t'encouragera toujours. Même si par moments tu as besoin d'être conseillé, repris, guidé, c'est toujours pour notre bien. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le don de Jésus. Oui, une fois de plus, je te le redis, j'ai besoin, nous avons besoin que tu nous aides par le Saint-Esprit à comprendre correctement, à vivre dans l'équilibre de ce que tu es, à vivre ta lumière sur ton amour, sur Jésus, à considérer, à nous attarder, à réfléchir sur ce grand Sauveur et Seigneur que tu nous as donné. Merci parce que dans nos réalités, tu nous accompagnes et tu nous dis de regarder à Jésus, ton Fils bien-aimé, par qui nous sommes en communion avec toi. Fais du bien à tes bien-aimés qui passent par un moment difficile ce matin. Aide-les à continuer la route avec toi et à être fidèles pour être prêts pour le retour de notre Seigneur. Amen.